débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir, bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. L'attentat contre Charlie Hebdo a relancé ce débat sur la laïcité en France. Alors le principe de laïcité établi dans une loi en 1905 a mis fin aux privilèges dont pouvait bénéficier la religion à une époque où le catholicisme occupait une position très dominante. Un siècle plus tard, les religions parviennent-elles à s'accommoder de l'obligation de confiner la foi dans la sphère strictement privée ? Sont-elles ou se sentent-elles discriminées par ce principe laïque, notamment quand la liberté d'expression autorise des critiques jugées blasphématoires? La laïcité est-elle anti-religieuse? On en parle avec nos deux invités ce soir. Je vous les présente tout de suite. Isabelle Saint-Martin est directrice de l'IESR. C'est l'Institut européen en sciences et religions qui a été créé manifestement au sein de l'école pratique des hautes études à la suite d'un rapport de Régis Debray sur l'enseignement du fait religieux à l'école laïque. On en parlera tout à l'heure. Bonsoir Isabelle Saint-Martin.
Bonsoir.
Et puis Nicolas Cadenne est lui rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité en France. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Nicolas Cadenne. Peut-être pour donner un petit peu de contexte, on pourrait rappeler les raisons pour lesquelles la France a doté ses institutions de ce principe de laïcité au début du XXe siècle. Nicolas Cadenne.
Oui, tout à fait. La France s'est dotée de ce grand principe de laïcité suite à une histoire très riche liée à sa diversité et puis liée aussi à la guerre des religions que nous avons connue, à la persécution en particulier des protestants et puis des juifs. Et donc à cette nécessité de faire vivre ensemble une population diverse qui pouvait comprendre des citoyens qui ne pensaient pas la même chose. Mmh. Et donc il était absolument nécessaire d'instaurer un cadre qui permette l'expression de toutes les opinions, de toutes les croyances, dans le respect des croyances d'autrui ou des non-croyances d'autrui.
Mais est-ce que peut dire que le principe de laïcité s'attaquait à la position dominante de la religion catholique à l'époque ?
Alors il y avait évidemment en parallèle ce conflit avec la religion, puisque ce principe suppose la séparation entre l'État et les organisations religieuses, et qu'à l'époque l'Église catholique évidemment était très influente et faisait régulièrement pression sur l'État pour adopter des législations qui allaient dans le sens de la morale catholique. Mmh.
Mais c'était plus une volonté, on va dire, de pacification entre catholiques et athées que réellement une mise à l'écart des catholiques à l'époque. La lutte, on s'en souvient, était dure entre religieux et anticléricaux dans cette période-là. Je vais peut-être vous faire intervenir, Isabelle Saint-Martin, sur ce sujet.
Oui, la loi de laïcité vise à garantir la liberté de conscience. Moi, je crois qu'il faut insister sur cet aspect positif de la loi de séparation des Églises et de l'État. C'est pas une loi qui est contre les religions, c'est une loi qui dit que l'État ne privilégie aucune religion, il n'y a pas de religion d'État, il n'y a pas non plus d'irreligion d'État. Ce n'est pas une loi qui définirait que la France serait par essence un pays athée. Il faut bien distinguer la laïcité qui est un régime de séparation des Églises et de l'État, donc des Églises, pas que l'Église catholique, dans lequel l'État ne régente pas les Églises et les Églises ne dictent pas leurs lois à l'État, et ce qui serait un état de monopole d'une conception athée de l'existence.
Mmh. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la laïcité freine l'épanouissement de la pratique religieuse ?
Non, moi je pense pas qu'on puisse dire qu'elle freine l'épanouissement de la pratique religieuse. En France, on a le droit de pratiquer toute religion. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Et si on est croyant, on a le droit de changer de religion. C'est très important de le rappeler aussi. Il y a des États dans lesquels la liberté religieuse n'est pas garantie. Et justement, on ne peut pas changer de religion. Donc, elle n'est pas contre l'épanouissement d'une liberté religieuse. Elle garantit la liberté de conscience et la liberté de culte, y compris dans les espaces fermés. Espaces fermés que sont les internats, les hôpitaux, les prisons.
Donc mais c'est pas ça dans l'espace public.
Si. En réalité, la laïcité, effectivement, comme ça a été très bien dit, garantit la liberté de conscience pour tous les citoyens. Simplement, elle suppose la neutralité des agents publics, de tous ceux qui représentent l'État, l'administration, les collectivités locales et les services publics, parce qu'ils représentent l'État qui n'a pas de religion. et parce qu'ils doivent assurer une impartialité vis-à-vis de tous les citoyens. Ils doivent traiter de manière égale tous les citoyens, quelles que soient les croyances, les convictions de tous les citoyens. Mais après, les citoyens, eux, voient leur liberté de conscience garantie et donc peuvent l'exprimer. Ils peuvent l'exprimer, mais dans les limites de l'ordre public, dans les limites de la liberté d'autrui.
Oui, mais quand la liberté, la laïcité du moins, interdit des pratiques qui sont, on va dire, fondamentales pour celui qui a la foi, est-ce qu'on peut dire que c'est un frein à l'épanouissement de cette foi,
mais
de cette pratique religieuse?
Comme quoi, par exemple?
Le port de signes ostensibles de cette foi.
Alors là, il y a une exception, effectivement, c'est l'école. C'est l'école, le collège et les lycées publics, où effectivement là, les usagers eux-mêmes se voient limités dans leur port de signes religieux. Ils ne doivent pas être ostensibles, en effet. Mais parce qu'il a été considéré, suite à la commission Stasi, que effectivement, dans cette période où on devait acquérir le savoir, on devait le faire de façon, enfin sans aucune contrainte d'aucun ordre politique ou religieux, sans aucune pression, alors qu'il pouvait y en avoir entre élèves. Donc il a été considéré qu'il fallait qu'au sein de cette école, y compris les usagers, ne portent pas de signes ostensibles. Mais effectivement, c'est une exception. En dehors des élèves des établissements scolaires publics, vous pouvez, dans l'espace partagé, c'est peut-être plus clair comme ça, l'espace partagé, c'est-à-dire la rue par exemple, vous pouvez porter vos signes religieux, bien entendu. En revanche, vous ne devait pas perturber l'ordre public, bien entendu.
Est-ce que, alors, on en vient à un thème qui vous intéresse tous les deux au premier plan, je vais commencer avec vous Isabelle Saint-Martin, est-ce qu'il faut enseigner le fait religieux pour pouvoir parler de la laïcité?
Oui, je pense que c'est très important de comprendre encore une fois que la laïcité n'est pas contre les religions, elle est contre le monopole d'une pratique religieuse et elle s'oppose, dans le cadre scolaire, ça a été rappelé, il y a une limitation pour des mineurs de la manifestation de leur appartenance religieuse pour respecter la non-discrimination, la neutralité et l'égalité de tous dans l'acquisition du savoir. Oui. Alors, puisqu'on parle de la loi de 1905, il faut rappeler que pour l'école, les grandes lois de laïcisation scolaire, c'est auparavant, c'est les années 1880, les lois Ferry, qui ont mis fin à un enseignement religieux confessionnel à l'école. Donc on sort la transmission religieuse catéchétique de l'école. Ça ne veut pas dire qu'on l'interdit. De même, il est même prévu par cette loi que les écoles vaqueront le jeudi après-midi, c'était le jeudi à l'époque, pour permettre aux familles de donner un enseignement religieux selon leur choix. Vous voyez que l'espace de liberté dans la famille était prévu. À l'école, on s'abstient de parler de religion. L'école est neutre sur le plan religieux. Et de ce fait, elle n'est pas non plus hostile aux religions et donc ça a été compris pendant des décennies comme le fait qu'on n'allait pas non plus aborder le religieux pour ne pas aborder ou donner un enseignement qui serait contraire aux religions. Et puis les choses se sont pacifiées, ont évolué. De toute façon, dans les programmes d'histoire, la présence de grands faits importants, marquants, disons faits religieux, naissance de l'islam, l'histoire des guerres de religion, si vous voulez, ces événements-là ont toujours fait plus ou moins partie des programmes d'histoire. Et c'est vrai qu'il y a eu dans les années 1980, vous voyez, un siècle après, on s'est dit qu'il fallait peut-être repenser la place de ces faits religieux dans les programmes. Ça a amené des évolutions très importantes. C'est-à-dire qu'en 1996, par exemple, dans les programmes de français, on a remis des pages de la Bible. Alors là, la Bible, elle était complètement sortie de l'école pendant plus d'un siècle. On a remis des pages de la Bible au titre des grands textes fondateurs, en se disant qu'on ne pouvait pas comprendre la littérature occidentale, qu'on ne pouvait pas comprendre beaucoup d'éléments de symbolique, artistique, littéraire, architectural, tout ce que vous voulez, sans avoir quelques notions de ces grands textes fondateurs. Oui. Qu'on ne prend pas comme une transmission de foi, qu'on prend dans l'ordre du savoir, de la culture. Voilà.
C'est un point, une recommandation de votre rapport, Nicolas Cadens. L'enseignement du fait religieux, c'est important.
L'enseignement laïque du fait religieux. Oui. Un enseignement,
mais comment on fait? Alors, faudrait peut-être essayer de définir un petit peu comment on en parle.
Ça a été bien dit, c'est un enseignement neutre, c'est un enseignement contextualisé, historicisé des religions, parce que de fait, évidemment, elles ont eu une influence sur les sociétés et jusqu'à celle d'aujourd'hui. Mmh. Et donc, il est important de contextualiser et d'historiciser ces questions-là. Et puis aussi, introduire une distance de réflexion critique chez les élèves pour aussi qu'il y ait une meilleure compréhension des croyances des uns et des autres, sans bien entendu faire de formation catéchisée.
C'est là tout le problème, la distance critique dont vous parlez, parce que on doit, et je pense, évoquer son aspect fondamental, essentiel pour ceux qui sont très croyants. Comment on fait ça? Comment on prend cette distance, ou comment justement on ne l'apprend pas?
Ben, c'est justement tout le but de la laïcité, c'est-à-dire cet apprentissage du respect mutuel. Chacun peut croire ce qu'il veut, mais doit admettre que l'autre puisse ne pas croire ou croire autre chose ou puisse changer d'opinion. Il faut donc instaurer un dialogue, une interaction avec les élèves, un dialogue qui puisse faire comprendre cette notion-là, ce cadre commun qui fait que chacun peut penser ce qu'il veut, mais dès lors qu'il accepte que son voisin pense autre chose et puisse l'exprimer lui aussi et puisse, pourquoi pas, changer même d'opinion.
C'est possible ça quand on est très croyant d'intégrer une notion comme celle-là, vous pensez?
Écoutez, oui, c'est bien entendu possible. En tous les cas, l'école doit permettre à tous les élèves d'acquérir le savoir de façon dépassionnée et sans pression d'aucune sorte, sans contrainte.
Est-ce que le principe de laïcité doit être revu, selon vous, ou pas?
C'est plutôt Nicolas Cadenne de répondre.
Alors, Nicolas Cadenne.
Non, je ne pense pas. Non, le principe de laïcité est clairement établi. Il n'y a pas de raison de le revoir. Le droit actuel permet de répondre à toutes les problématiques entourant la laïcité. En revanche,
on a bien vu que non, récemment, le blasphème, par exemple.
Ah non, mais si, le droit actuel est clair, simplement. Ouais. Il est méconnu, peut-être, mais il est clair. On n'a pas de délit de blasphème en France.
Oui. Ben justement, est-ce qu'on pourrait envisager de l'instaurer? Parce qu'il semblerait que ce soit une faute en regard de certaines religions. Est-ce qu'il pourrait...
Non, vous savez, le droit français précise les choses, à savoir on ne peut pas insulter quelqu'un ou le discriminer en raison de sa religion. On peut en revanche critiquer des idées. C'est très différent, c'est cette nuance qu'il faut bien préciser et rappeler finalement. Et il y a peut-être de la pédagogie à faire là-dessus, mais cette nuance est importante. Donc bien entendu que dans une démocratie, vous avez une liberté d'expression qui vous permet de critiquer des idées. En revanche, vous ne devez pas discriminer ou insulter en raison de son opinion ou de sa religion.
Vous n'êtes pas juriste, Isabelle Saint-Martin, mais je vous pose la question quand même. Est-ce que le droit de blasphème doit être revu, rediscuté, redébattu, selon vous, en France?
Non, selon moi, encore une fois, c'est tout à fait clair. Il n'y a pas de délit de blasphème en France. Et il y a la protection des personnes. On ne peut pas se moquer des personnes. Alors, évidemment, la question vis-à-vis des croyants, c'est quelle distance critique ils sont capables de faire eux-mêmes entre leurs idées et leurs croyances dont on peut se moquer et les personnes elles-mêmes qui sont protégées par la loi. Vous voyez, c'est là qu'il y a cette distinction. Et c'est vrai que le fait d'apprendre, de connaître les systèmes religieux différents, d'apprendre comme c'est le cas dans le système scolaire français aujourd'hui, rappelé dans le socle commun, la diversité des cultures, des civilisations, des faits religieux. Pourquoi, par exemple, le rapport de Régis Debray en 2002 a réinsisté sur l'enseignement du fait religieux qui avait commencé d'être mis en place? Pourquoi la ministre y revient en ce moment, après la crise que nous avons vécue? C'est avec cette idée qu'une meilleure connaissance des autres, de la diversité, de la pluralité religieuse en France, peut ouvrir au respect et à la tolérance. Le fait que peut-être les élèves comprennent qu'il y a à côté d'eux, dans leur environnement, d'autres façons de lire le monde, d'autres rapports d'intelligibilité de l'homme à l'univers. Ça les incite aussi à se poser la question de ce qu'est leur croyance, de comprendre que même s'ils la trouvent, eux, la plus légitime, il y en a d'autres. Et l'ignorance génère la peur et la crainte. On peut espérer qu'une meilleure connaissance de l'autre aide à lever ses craintes et à vivre en bonne intelligence.
Nicolas Cadel.
Oui, c'est très juste. Et d'ailleurs, on a fait... En plus de cette préconisation sur l'enseignement laïque du fait religieux, nous en avons fait une autre qui nous semble importante, c'est l'intégration dans les programmes scolaires de toute cette diversité, diversité culturelle qui a façonné l'histoire de France et le récit national. Parce qu'il, pour intégrer tous les jeunes, au récit national, pour que tous les jeunes se sentent autant français les uns que les autres, il faut que toute cette diversité culturelle soit prise en compte. Trop souvent, peut-être, on a occulté notamment les cultures des Outre-mer, qui sont pourtant partie prenante de la France, les cultures africaines, subsahariennes, maghrébines, asiatiques, qui ont longtemps été partie intégrante d'ailleurs de la France, et qui trop souvent sont occultées. Et là, il y a ce besoin, effectivement, de toutes les traiter, de rappeler à quel point elles ont pu marquer et façonner l'histoire de France pour intégrer tout le monde dans le récit national.
Alors, on le sait, l'État finance abondamment les activités sportives, artistiques, culturelles qui sont associées généralement au bien-être individuel, mais pas la pratique religieuse qui elle aussi est associée à l'épanouissement de la personne, on va dire. Est-ce qu'il faut s'en étonner?
Non, c'est assez logique, parce qu'il ne, si vous financez, vous rendez dépendant le culte. Et c'est finalement un contrôle derrière que vous avez de l'État sur un culte. Or, la croyance religieuse, sur le coup, est quelque chose de très personnel, effectivement, dans lequel n'a pas à s'immiscer l'État, qui n'a pas de religion d'État. Mmh. Depuis donc la loi de 1905, les choses sont claires. Et donc, il serait tout à fait illogique que l'État commence à s'immiscer dans ces affaires-là. Ça voudrait dire ensuite qu'il pourrait définir ce qu'est la bonne religion de la mauvaise et quelles sont les bonnes ou mauvaises pratiques.
Vous êtes d'accord, Isabelle Saint-Martin?
Oui, la seule exception, c'est la question des aumôniers.
Bien sûr.
Voilà. Donc, encore une fois, dans ces espaces fermés, dans lesquels il y a la liberté de culte, l'État va jusqu'à prévoir et organiser cette liberté de culte.
Y compris dans les lycées. Hein. Effectivement, l'État peut financer des aumôneries pour effectivement ceux qui ont des croyances spécifiques et qui souhaitent avoir une assistance.
J'ose à peine vous poser la question, mais je le fais quand même parce qu'elle m'a traversé et puis je l'ai vu au cours de lecture que j'ai fait en préparant cette émission. Est-ce que l'idéologie laïque peut elle aussi être assimilée à un dogme, à une croyance un peu irrationnelle, à une religion?
Effectivement, il y a parfois, il y a parfois cette conception de la laïcité, mais qui n'est pas la laïcité française. En France, la laïcité n'est pas une conviction, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas une religion. C'est un cadre qui permet l'expression de toutes les opinions, toutes les croyances, dans les limites, bien sûr, de la liberté d'autrui. Et ça, il faut systématiquement le rappeler. La laïcité française, c'est pas la laïcité belge, par exemple, où là, effectivement, la laïcité peut être assimilable à une conviction qui serait à côté de la religion, des catholiques, des protestants, etc. Non, en France, la laïcité, c'est un cadre global. Et tout le monde, finalement, se doit d'être laïque. Tout le monde est laïque. Quelle que soit sa croyance ou non-croyance, nous sommes laïques parce que nous respectons la croyance de l'autre ou l'opinion de l'autre. Et nous respectons l'expression de l'autre.
En tout cas, l'école, pour vous, Isabelle Saint-Martin, est le lieu d'apprentissage de cette laïcité?
L'école est laïque, les enseignements sont laïques, la charte de la laïcité à l'école l'a encore rappelé récemment. Il y a tout un travail qui est mené à la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire pour faire adopter cette charte de la laïcité, parce que je crois que c'est important que les élèves apprennent à aimer la laïcité comme une protection de neutralité, de non-discrimination à leur égard, et pas comme un ensemble d'interdits. Ça serait triste de voir la laïcité comme quelque chose qui est un ensemble d'interdits. Et la laïcité, encore une fois, ce n'est pas l'athéisme. L'école, elle est là pour favoriser le jugement critique, l'autonomie de pensée, transmettre des connaissances, faire un citoyen qui soit capable de se déterminer librement. Elle n'est pas là pour lui enseigner une religion ou une irreligion ou un athéisme d'État.
Mais est-ce que la famille des élèves qu'on évoque là doit aussi prôner cette valeur-là pour qu'elle prenne toute sa force, on va dire?
Je pense que c'est important que les familles se sentent respectées par l'école, qu'elles soient croyantes ou non croyantes. Et pour ça, c'est important que l'attitude de l'école, l'attitude laïque de l'école, soit bien une attitude d'ouverture à cette liberté de conscience. Et donc, une famille croyante est tout aussi intelligente et apte à une conception rationnelle du monde qu'une famille incroyante. Et une famille incroyante a tout autant des valeurs morales qu'une famille croyante. Hein. Vous voyez, c'est la laïcité, c'est la neutralité de l'école vis-à-vis des choix religieux des élèves, religieux ou non religieux. Et c'est important de ne pas donner l'impression que devenir un bon citoyen français, c'est nécessairement abandonner ses superstitions. C'est autre chose, c'est pas dans le même registre. La laïcité n'est pas en concurrence avec le discours religieux. Elle dit simplement, dans l'espace de l'école, je m'adresse aux élèves en tant qu'individus en devenir et je ne les assigne pas à leur origine ethnique, religieuse, à leurs différences diverses.
Ce sera notre conclusion. On suivra avec intérêt, Nicolas Cadenne, les recommandations du rapport qu'a publié donc l'Observatoire, dont vous êtes le rapporteur général. Merci à tous les deux de vos éclaircissements. Isabelle Saint-Martin, directrice de l'IESR, Institut européen en sciences et des religions, et Nicolas Cadenne, rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité. Merci également à Florence Ponce et à Cécile Périard. Demain, mardi, Politique reçoit Yves Jégot. Mercredi, on se demande si François Hollande a repris la main en ce début d'année. Bonsoir à tous. Un nouveau journal sur RFI dans quelques secondes.